Donc voilà, il y a mon travail plastique qui est en fait à la base de ma recherche. Et comme tu l'as dit, mon travail, c'est depuis très longtemps, a été et s'inscrit dans l'espace urbain. Et en fait, mon désir de poursuivre mon travail et de l'inscrire dans l'espace urbain m'a amené en fait à me confronter aux appels à projets pour la création d'œuvres dans l'espace public. Et j'y ai décelé en fait un certain nombre de problématiques qui m'ont presque en fait mis dans l'impossibilité d'agir, parce que j'avais besoin de je comprenais pas en fait les clés qui allaient pouvoir être les miennes pour répondre aux situations que je vais donc vous présenter. Mais voilà, ça m'a amené dans un moment de réflexion et qui m'a motivé à engager une recherche par la pratique, et donc dans ce doctorat radiant. Je suis content d'intervenir après vous, puisqu'en fait, les réflexions qui viennent d'être données par vous trois, en fait, je vais essayer de les reprendre. Je vais essayer d'en. En fait, je me rends compte de plus en plus, suite à votre intervention, que de l'impact en fait de toutes ces politiques publiques sur l'œuvre d'art, et c'est ce que moi j'avais aussi en tête, et donc je suis très content qu'on puisse en discuter aujourd'hui. Je vais vous présenter deux dispositifs. En fait, qui vise à ingrémenter l'art dans l'espace public, qui est la commande publique et l'action des nouveaux commanditaires. Alors, la commande publique, hein, je pense que vous connaissez, c'est la concrète volonté de l'État, ministère de la Culture, des partenaires multiples, les collectivités territoriales, établissements publics, partenaires privés, diffuser la création contemporaine, d'enrichir notre cadre et le patrimoine national par la présence d'œuvres d'art en dehors des institutions spécialisées dans le domaine de l'art contemporain. La commande publique artistique et l'aide à la commande artistique, pardon, visent aussi à permettre aux artistes de réaliser des projets dont l'ampleur, les enjeux ou la dimension nécessitent des moyens inhabituels. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que vraiment la commande publique, c'est vraiment mis en place quand il y a des grands travaux. C'est important, on va le voir. Donc, cette procédure, voilà, c'est ce que dit le Sénat. La commande publique est avant tout un programme de décoration des bâtiments publics ou autres aménagements comme les trams. Ça, c'est très, très connu pour les trams qui sont mis en œuvre lors des programmes de travaux. Pardon, je me répète. Alors, un exemple de commande publique, ici à Caen, les motifs sont très importants. Donc, ici, contribuer à la requalification urbaine de l'espace public. Donc, là, on va aussi voir un peu des problématiques qui ont été évoquées précédemment. Il y a des enjeux comme ça urbains en fait, et donc c'est à l'art et c'est aux artistes de venir contribuer à des choses dont on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment du rôle de l'artiste, et surtout avec les compétences qui sont les nôtres, les budgets qui sont les nôtres, quelle est notre marge de manœuvre, et surtout en fait, le tout étant contrôlé par un appel à projet. On va en détailler un par la suite. En fait, quelle est notre marge de manœuvre dans ce type de procédure? Là, je vous ai mis l'œuvre, hein, donc ça, c'est à Caen, ça a donné lieu à. Alors, on peut voir que, par exemple, tout ce qui était partie végétale a été supprimé du projet, et il en est resté les sculptures qui sont ici, de Van Lieshout. Je voulais proposer un autre contexte, je voulais vraiment montrer aussi un autre motif qui amène à développer des projets de commande publique, qui sont toujours assez lourd, voilà, c'est toujours des choses assez dramatiques. Donc là, ici, lutter face à la dévitalisation du territoire, d'une image négative de la ville froide, maussade et encaissée. Donc Morez, c'est une ville dans les montagnes du Jura, et donc c'est très encaissé, il y a peu de lumière. Et donc voilà, la ville a mis en place différents dispositifs pour essayer d'améliorer la qualité de vie. Et donc, après plusieurs années de travaux, ils ont demandé à des artistes d'intervenir. Donc là, je vous présente un contexte rural. Voilà, si je veux. Morez, elle est décrite par la mairie même comme une ville offrant le tableau architectural, urbain et social de moyenne montagne. Pardon. La ville offre le tableau architectural, urbain et social d'une ville de moyenne montagne, en train de négocier son passage à l'économie de plus en plus mondialisée et de moins en moins dépendante des ressources locales. L'enjeu majeur auquel la ville est confrontée est le maintien d'une vitalité économique et sociale de son centre. Donc là, on rejoint un peu ce que disait Quentin, en évitant les fuites résidentielles vers les hauteurs mieux exposées. Évidemment, tous les gens qui ont les moyens vont habiter sur les hauteurs et le centre-ville se retrouve totalement vide. Et donc il faut on propose à un artiste de venir insérer une commande publique au centre-ville pour lutter contre cette image et cette dévitalisation. La commande n'est pas terminée, c'est pour ça que je vous ai pas mis d'image, mais ce qui est en train de réaliser, ce serait des grands miroirs sur les flancs des collines qui viendraient, qui amèneraient comme ça un rayon de lumière sur la place du centre-ville et qui permettrait de gagner environ 5 à 10 minutes de soleil par jour si on se place dans le faisceau. Ce qu'on peut voir assez régulièrement, c'est que la commande publique, elle est imaginée par les politiques comme un moyen de soigner des espaces publics, de rétablir du vivre ensemble, des usages, et l'artiste est souvent vu comme un médiateur. Dans un autre dispositif, l'action des nouveaux commanditaires, on retrouve cela. Donc, c'est un dispositif initié en 91 par l'artiste François Hers et qui permet à des citoyens confrontés à des enjeux de société, alors il va falloir s'entendre sur quels sont ces enjeux, d'associer des artistes contemporains à leurs préoccupations en leur passant commande d'une œuvre. Donc, ce qui est important, l'enjeu sur lequel se basent les nouveaux commanditaires, c'est que ce sont des citoyens qui vont passer commande. Alors ça c'est la théorie. Je vais pas pouvoir faire la pratique sur la partie nouveau commanditaire, mais je vais le faire avec une œuvre de commande publique qui a été très proche en fait des commanditaires et voilà, et qui pose vraiment la question de savoir comment on peut intégrer les habitants dans une œuvre et est-ce que c'est possible, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors les enjeux de société dont je disais tout à l'heure, il faudrait déjà s'entendre sur qu'est-ce que les enjeux de société, puisqu'en fait, les nouveaux commanditaires, ils agissent plutôt dans le contexte rural. Voilà, on a toujours aussi des intitulés assez, assez tragiques, je dirais. Donc, interpeller les nouvelles générations et leur donner le désir de continuer à faire vivre une tradition séculaire, la colombophilie. Restructurer des bâtiments, alors redonner sa place à la tombe de Juste Murion, un homme mort en 1881, ou contribuer au cheminement vers la réinsertion professionnelle. Enfin bref, on voit bien que la plupart de ces commandes qui s'insèrent dans l'espace public sont motivées par des enjeux sociaux ou urbains qui dépassent, à mon avis, un petit peu le cadre de l'art. Et en tout cas, qui challenge, moi je le prends comme ça, qui challenge les artistes dans leur capacité à venir répondre à ces commandes publiques. Ces commandes publiques ou projets des nouveaux commanditaires, pardon. Alors là, c'était un projet des nouveaux commanditaires. On voit bien la différence de la commande publique de la place Saint-Sauveur. C'est qu'en fait, là, le lieu n'est pas investi de façon pérenne. Ça arrive souvent, les nouveaux commanditaires, vous voyez, c'est pas lié à un grand programme de travaux. Donc, en fait, on insère des choses en plus, on essaye d'amener des éléments comme ça pour corriger pour certains aspects de la ville. Ici, c'est le manque de... Le fait que la place centrale est un peu vide et il manque des points pour que les gens se réunissent. Un espace de rencontre, ce qui est un élément qu'on retrouve très régulièrement. Alors, les nouveaux commanditaires, c'est aussi, à mon avis... On trouve peu de littérature et peu de choses à leur propos, parce que c'est très, on va dire nébuleux, parce que ça serait assez négatif. C'est une succession d'initiatives un petit peu partout, donc c'est assez compliqué d'avoir des gens qui ont fait la synthèse de ça. Mais en tout cas, ils ont des enjeux qui posent question et qui méritent vraiment d'être discuté, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ils cherchent la démocratisation de l'art, entre guillemets. Et ils le posent comme si cette chose était réelle, et en fait, était là, donc non pas la démocratie, elle est là, évidemment, mais c'est-à-dire la façon dont les choses se passent, et comment les choix sont effectués, comment les citoyens sont associés, etc. Donc, voilà, vous avez ici, je vais pas la relire, mais vous avez ici un petit peu comment les nouveaux commanditaires se présentent. Avec vraiment l'idée de voilà créer un monde commun avec des individus aux conceptions et convictions différentes, devenus libres et égaux en droit. Là, je pense que par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Nicolas, ça, on peut quand même mettre ça en doute. Je vais passer à la grande marque et l'exemple que j'aimerais détailler aujourd'hui. Je ne vais pas refaire tout l'historique parce qu'Anaïs l'a très bien fait. J'aurais pas la prétention de faire quelque chose d'aussi bien. Je voulais juste en fait montrer cette image en disant qu'en fait la Grand Mare, voilà, Ça pourrait être le chemin vert, hein. C'est un lieu-dit, donc une mare, on la voit sur l'image en haut, une mare qui se trouve au milieu d'une ferme et qui va être urbanisée à très grande vitesse dans les Hauts-de-Rouen. Et c'est un quartier qui a subi six grands plans de transformation en même pas 30 ans. Je les ai pas. Étant donné que c'était similaire au chemin vert, je ne vais pas les citer. Voilà, c'est six plans de transformation en même pas 30 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a eu la construction et ensuite on a commencé à déconstruire, notamment avec les politiques de l'ANRU, ça a été cité. Ça a été décrit tout à l'heure. Mais ce qui me semble déjà choquant, c'est-à-dire que il y a eu les plans de transformation et en 2014, donc à la fin de toute cette transformation, il n'y a rien qui ne fonctionne. Le délabrement continue et en fait, on a l'idée de faire une œuvre d'art en son centre, au centre de la dalle de la Grand Mare. Pardon, demander à un artiste, voilà, de venir réparer de créer un espace de rencontre. Alors qu'en fait, ça fait plus de 30 ans qu'on détruit tout espace de rencontre. Ça, on va en discuter. Le long de l'intervention. C'est ainsi qu'après la construction, voilà, les politiques de l'ANRU, excusez-moi, je me mélange un petit peu, j'ai pas l'habitude des PowerPoint, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'après la période de construction que je vous ai montrée sur la diapo précédente, en fait, il y a 25 bâtiments qui ont été détruits sur ce quartier. Donc, c'est toute la partie, notamment à droite, plus une grande tour à gauche. Donc, c'était des tours construites par l'architecte Lodz, qui posaient semblerait un problème. Elles avaient tendance à brûler. C'est pas que les tours se mettaient à brûler, c'est qu'en fait, les bâtiments étaient trop petits, les gens improvisaient des cuisines et ça provoquait des incendies. Et voilà, plutôt que de régler les problèmes de l'intérieur, comme on a pu le montrer tout à l'heure avec Quentin, on a changé de contenant. Bon, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout détruit. Ça a laissé un immense vide dans le quartier, que vous allez pouvoir voir là, à gauche. En fait, on voit toute la partie de gauche, c'est maintenant, il y a dans l'arc de cercle. En fait, il n'y a plus rien, et on a commencé à reconstruire un peu des pavillons à côté. Mais voilà, c'est ce vide en fait qui va motiver l'intervention, la commande publique. Il y a une chose qui me semble importante, c'est que par exemple, par rapport au confort des gens, par rapport au fait d'habiter dans ce quartier, six plans de transformation en 30 ans. Ça veut dire qu'en fait, les travaux n'ont jamais cessé, en fait. Et donc, la stabilité est un facteur de bien-être, déjà, là, on peut voir que les gens, ils ont été en fait en permanence bougés et dérangés. On peut imaginer assez facilement par des dizaines d'années de travaux. Ce vide dont je parlais. Il se retrouve assez bien décrit dans les appels dans l'appel à projet de la Grand Mare, qui se révèle, à mon sens, un espace inattendu de la critique urbaine. Je vais vous lire un passage de cet appel à projet. Pense ainsi, au cours des 10 dernières années, alors la réalité ce serait plutôt de dire les 30 dernières années, le quartier de la Grand Mare a fait l'objet d'importants travaux de rénovation urbaine. Les travaux ont porté sur l'aménagement du centre commercial, les façades, ainsi que l'espace de la dalle, esplanade située au cœur du quartier, un espace de circulation incontournable et très exposé au regard des habitants. Ça me semble intéressant parce que ça rejoint aussi l'espace dont Nicolas a discuté. Lieu central, la dalle pourrait constituer un centre, elle reste toutefois un vide sans nom, selon l'expression d'un de ses habitants. On retrouve cet esprit dans un autre passage cet esprit de vide dans un autre passage de l'appel à projet qui dit: à cause de la neutralité relativement froide des aménagements. Alors là, ça critique les aménagements passés, ce que je trouve assez intéressant. Peut-être vous notez que c'est un appel à projet écrit par les services culture de la ville, donc peut-être qu'il s'oppose aussi un petit peu aux services architecture. Les conseillers de quartier on estimait nécessaire, en novembre 2011, d'envisager l'installation d'une œuvre nécessitant l'intervention d'un artiste et faisant de cet espace un véritable lieu de vie, un centre où puissent se rencontrer les enfants et les adultes. Voilà, là, vous voyez le vide. Et l'artiste, lui, avec ses moyens et ses idées, doit réussir ça me semble assez choquant, en fait, de voir que c'est à un artiste de venir répondre à cette destruction comme ça qui est assez impressionnante, je pense, vous l'avez vu dans les images. Cet appel à projet en tant qu'espace de la critique urbaine, espace inattendu, il m'intéresse aussi puisqu'en fait, c'est très proche des critiques qui ont été émises dès 1968 par Henri Lefebvre, le théoricien de l'espace public et philosophe, notamment dans un livre, Le droit à la ville, qui annonçait, dans les grands ensembles, toute la réalité urbaine a disparu, rue, place, monument, espace de rencontre. Il n'est pas jusqu'au café, le bistrot, ça a une importance, j'y reviendrai en conclusion, qui n'ait pas suscité le ressentiment des ensemblistes, leur goût de l'ascétisme, leur réduction de l'habité à l'habitat. Il a fallu qu'ils aillent jusqu'au bout de leur destruction, de la réalité urbaine sensible, pour qu'apparaisse l'exigence d'une restitution. On le voit, la commande publique va faire partie de ces restitutions suite à de très fortes dégradations de l'espace de vie. Si j'ai choisi de parler de la commande de la grand-mère, c'est puisqu'en fait, elle a été présentée par la ministre de la Culture de l'époque, Madame Fleur Pellerin, comme une œuvre, en fait, à l'initiative des habitants. Je la cite, pour elle, en fait, donc c'était les habitants qui ont souhaité, par l'intermédiaire de leur conseil de quartier, de voir s'installer au cœur de leur quartier une œuvre d'art qui soit un espace de rencontre. Alors, dans la même présentation, cette phrase, elle est tirée d'un livret qui présente la commande publique. Le maire, lui, le projet, pour le maire, le projet, il est l'initiative non plus des habitants, mais des conseillers de quartier. Ce que je trouve intéressant, c'est ce détail, en fait, ce doute, en fait, qui m'a poussé à chercher un peu plus loin sur l'espace de la Grand-Mare. Alors, plus loin, Fleur Pellerin, pardon, nous dit que c'est les habitants qui constituent majoritairement le comité de pilotage. Donc, en fait, on peut se rassurer, le maire donc parle des conseillers de quartier, mais en fait, c'est bien des habitants qui constituent ce comité. Alors, une situation d'autant plus intéressante qu'elle représenterait en fait une véritable révolution dans le milieu de l'art institutionnel, puisque ce seraient des citoyens qui remplaceraient les comités d'experts, qui sont normalement ceux qui décident, et qui mettraient en œuvre la troisième catégorie de l'échelle d'Arnstein, faisant des citoyens les décideurs capables d'influer sur leur lieu de vie. Je m'excuse, c'est en anglais, mais je vais vous en parler. La chercheuse américaine Sherry Arnstein a proposé à la fin des années 60 une échelle de la participation citoyenne qui distingue trois grandes catégories sur laquelle je me base en fait pour un petit peu regarder où on se trouve et d'évaluer la façon dont les citoyens sont amenés, excusez-moi, dans la façon dont les citoyens sont amenés à participer. La première catégorie, c'est celle de la manipulation ou de la non-participation. Elle renvoie aux réalités dans lesquelles il s'agit simplement de donner l'illusion d'une association des citoyens à la discussion. Dans la seconde catégorie, c'est une collaboration qui est symbolique, et là il s'agit cette fois d'informer ou de consulter les citoyens, mais sans véritablement leur donner un pouvoir d'agir. Enfin, la troisième catégorie, c'est celle des démarches participatives, et c'est celle qui donne aux citoyens le statut de partenaire de l'action publique, et dont on a l'impression que c'est celle à laquelle Fleur Pellerin fait mention, puisqu'elle nous dit que c'est vraiment eux qui ont décidé de la commande publique. Alors, pour Einstein, c'est seulement la dernière catégorie qui mériterait d'être considérée comme participative. Alors, quand on regarde la composition des membres du comité qui compose le quartier, le comité de quartier, excusez-moi, le comité de la commande publique. Alors, malheureusement, sur les 25 membres, on ne présente que les trois premiers qui sont les présidents qui président le jury. qui a, donc je ne vais pas citer leur nom, mais je vais vous donner leur fonction. Donc il y a l'adjointe au maire de Rouen, chargée de l'urbanisme et adjointe de quartier. Il y a la première adjointe au maire de Rouen, toujours, chargée à la culture, cette fois-ci, de la jeunesse et de la vie étudiante. Et enfin, il y a l'adjoint au maire de Rouen, chargé de la coordination des outils, de la démocratie participative et de la politique de proximité. Il est aussi adjoint de quartier. Cette fonction, en fait, ça m'a intrigué, puisque cette fonction, elle disparaît pour les 22 autres membres du comité. Alors, en regardant sur Internet, j'ai pu retrouver toutes les identités des personnes citées. Et en fait, on se rend compte, une fois les fonctions rattachées au nom propre, qui étaient, lui, mentionnées, que chaque individu, en fait, qui compose ce comité de pilotage, ne semble pas vraiment être des simples habitants. D'ailleurs, on peut avoir de forts doutes sur le fait qu'ils habitent réellement la dalle, et ils font plutôt partie d'acteurs institutionnels assez impliqués dans la vie locale, soit des membres de quartier, soit du personnel de la ville, soit du personnel du ministère de la Culture, soit des professionnels employés toujours par le ministère de la Culture, qui peuvent être par exemple des enseignants dans les écoles d'art, ou alors employés ou alors passer par les écoles d'art. Je pense que ça pose quand même tout de même question, puisqu'en fait c'est pas vraiment la façon dont on nous présente les choses, et ça remet justement en question la façon dont les publics sont associés en fait justement au projet dans l'espace urbain. Alors si les habitants ne sont pas à l'initiative de l'œuvre, et si les habitants ne sont pas non plus présents dans le comité, sauf à une très forte minorité, je dois être précis, il y a deux personnes qui sont vraiment, il semblerait, des anonymes, à quoi peuvent-ils donc participer dans cette commande publique? Pour cela, il est important de retourner sur l'appel à projet, qui semble de plus en plus, en fait, être un scénario dans lequel chacun a une place préconçue. C'est ainsi que, par exemple, pour les habitants, c'est déjà dans le cahier des charges qu'il consistera, pour l'artiste à associer les habitants dans des étapes clés de la commande, et ceux-ci pourront prendre d'autres formes proposées par l'artiste ou l'équipe artistique choisie. Donc c'est assez flou, mais on se rend compte, en fait, comme sur les images, que ce qu'on a proposé aux habitants, en fait, c'est tout simplement de venir visiter une exposition, donc ce qui semble au final relativement basique. Donc on leur présente en fait un projet dont on peut s'étonner que c'est en fait le même projet que le projet qui sera réalisé. Alors c'est étonnant, puisque en fait on était dans un processus participatif, on aurait pu imaginer que ceci allait peut-être amener des idées, ou on peut imaginer par exemple sur un projet de ce type qui concerne une dalle, donc un lieu très central. Par exemple, on aurait pu leur proposer un vote ou quelque chose comme ça, mais non, là il s'agit simplement de faire en fait quelque chose qui relève plutôt de la médiation. On leur propose de venir le temps de cette exposition, vous le voyez en haut à droite, des free speakers. Donc ça fait référence en fait à la personne qui est dans l'image en bas à droite. Et c'est des narrateurs publics dans les parcs de Londres, ou alors ça se retrouve aussi aux États-Unis. C'est des gens qui viennent, qui montent sur l'escabeau et qui disent ce qu'ils ont besoin. C'est la liberté d'expression totale, et les gens peuvent s'exprimer. Et là, on voit en fait que l'artiste, ce qu'il a proposé dans cette commande, c'est que les jeunes, puisque la commande là, on le voit bien, s'adresse plutôt aux jeunes, voilà, viennent s'exprimer. Seulement, ce qu'on ne sait pas, c'est si cette proposition vient d'une demande. Et ça, il n'y a aucun élément pour moi pour analyser si ça vient d'une demande. Donc, on va voir après. J'ai quand même cherché, essayé de trouver d'où vient l'origine de cette idée. Mais pour l'instant, en fait, on n'a pas vraiment d'éléments qui nous permettent de voir si une réelle demande était présente. Ça nous permet de nous montrer un peu vigilants sur ce qu'on est en train de nous présenter. Pour Paul Ardenne, C'est un théoricien, historien de l'art, qui est spécialiste notamment de l'art dans l'espace public, et notamment au travers d'un livre qui s'appelle L'art contextuel. Donc, c'est quand l'art est dans le contexte, quand l'art réagit à des contextes, donc ici, un contexte socio-urbain. Paul Arden nous dit, attention, l'art public, il n'a pas dit attention, il dit l'art public à bon compte peut servir d'alibi social. Parce qu'il est par excellence, on l'a vu, cette forme de création la plus apte, pense-t-on, à retisser des liens sociaux dans les faits fréquemment distendus, voire inexistants dans les sociétés désolidarisées qui est la nôtre, prônant plus que tout autre, par ses modèles de vie individualistes et ses aspirations à l'excellence élitiste, le principe de désunion. Donc on voit bien, c'est vrai que dans beaucoup de discours, on prône en fait on voit bien que la société se désolidarise, mais on va ramener les modèles artistiques, et c'est aux artistes de ramener de l'union, des espaces de rencontre, etc. Malheureusement, ce qu'il faut essayer d'analyser maintenant, et c'est ce qui est peu fait, c'est d'essayer de savoir si ça fonctionne ou pas, et aussi peut-être d'analyser comment ces procédures ont été mises en place. Par rapport à cette situation, et surtout à cette exposition qui en fait donc permet aux gens de tester un dispositif et d'observer la maquette. Donc en fait, on prépare le terrain à l'arrivée de la commande publique. C'est Sylvain Latizeau de l'agence d'architecture qui s'appelle La Nouvelle Agence, qui est une agence spécialisée dans la construction participative, nous dit le participatif n'existe pas, on ne demande pas l'avis aux gens, on accompagne l'atterrissage du projet. Et ça me semble être une notion qui est très intéressante. L'atterrissage du projet via des opérations de médiation et de communication. Si on en revient à Einstein, pour elle, c'est ce qu'elle qualifie de manipulation. Latizeau nous en explique aussi les raisons, par exemple, par rapport à un quartier comme la Grand-Mare, où il y a 6 000 habitants. Sylvain Latizeau, lui, il nous dit, en fait, que le participatif, ça ne fonctionne qu'à l'échelle du tout le monde connaît tout le monde, c'est-à-dire 100 personnes, grand maximum, afin de préserver le lien entre chacun. Donc on comprend assez vite que dans un quartier de 6 000 habitants, ça va quand même être compliqué, l'échelle étant en fait beaucoup trop grande pour rester dans cette échelle du tout le monde connaît tout le monde, pardon. Alors qu'on le voit, la participation des habitants se limite à une exposition. L'appel à projet apparaît de plus en plus comme un scénario où chacun est défini, où la place de chacun est définie en amont et que chaque participant est invité à suivre. Là où c'est important, c'est que c'est l'artiste, la place de l'artiste est également définie. Donc là, on voit la traduction, vous voyez, du petit dispositif à gauche et de ce principe d'escabeau sur lequel on vient s'exprimer, qui est repris du parc de Hyde Park, en fait traduit par l'artiste. Ça donne cette structure, donc une installation de gradins dans lequel en fait on voit bien ça s'adresse aux jeunes puisque en fait il faut monter une échelle d'une dizaine de barreaux, donc c'est pas les habitants les plus âgés du quartier qui vont venir s'exprimer. Voilà, il faut monter et puis venir parler comme ça dans un mégaphone pour crier sa colère ou peut-être chanter ses joies, je ne sais pas. Je parlais de la place réservée aux artistes et des multiples contraintes qui entourent en fait les projets de commande publique, qui peuvent être de l'ordre des normes dans l'espace public, mais en fait l'appel à projet, donc c'est-à-dire la vision imaginée de l'œuvre par les politiques ou les gens qui créent cette commande, se retrouve aussi dans l'appel à projet. Et évidemment, si on veut gagner, il faut reprendre plus ou moins les termes. Et c'est là où les termes de la commande. Et c'est là où ça m'intéresse, puisqu'en fait, là, on voit bien que la commande, en fait, elle va quasiment matérialiser une vision politique de l'art. Et d'une vision politique de l'art pour les quartiers. C'est ainsi que si on prend le cahier des charges, on peut lire à la rubrique de l'œuvre. En fait, que celle-ci pourra être utilisable par les habitants au sens où elle leur proposa une forme d'interaction. L'œuvre pourra être escaladable ou habitable par les enfants. Elle pourra être un belvédère aménageant un point de vue ou des points de vue, par exemple. Elle ne sera pas nécessairement implantée à un endroit précis de la dalle, mais pourra traiter l'espace dans son ensemble, proposant un système de circulation, l'œuvre pourra ainsi être un ensemble d'éléments rythmant l'espace. Ça, c'est bien avant que la commande ne débute. C'est ce qui me semble, à mon avis, fondamental d'avoir en tête. C'est que ça, ce sont vraiment les prémices de la commande, avant même qu'on demande à un artiste de réfléchir, et avant même qu'on demande aux habitants leur avis sur... les habitants ne leur demandent pas leur avis, mais en tout cas qu'on invite les habitants à participer. Il était aussi demandé à l'artiste, lors de cette commande, de prendre soin d'observer les usages qu'avaient les gens dans cette dalle. Et ça me semble assez fondamental, puisqu'on voit qu'en fait, ça vient en complète contradiction avec un cahier des charges qui, en fait, vous l'avez vu, il proposait un belvédère, il proposait un ensemble de points de vue qu'on retrouve, en fait, d'un point de vue éclaté, qu'on retrouve, hein, il y a quatre points de vue. Voilà, c'était une sorte de rosace des vents éclaté qu'on retrouve dans la commande finale, qui, en fait, d'une certaine façon, met en forme la parole publique. En tout cas, c'est mon impression. C'est ce que j'essaye de développer dans mes recherches. Donc cela nous amène donc à nous interroger sur les échanges et les apports qu'ont pu avoir les habitants sur le projet, sur la liberté de ceux-ci de s'approprier leur quotidien et pour l'artiste de créer, de sa liberté de créer. Toujours à propos d'art public, Paul Ardenne, il parle de création qui intègre dès l'amont de leur propre instrumentalisation, voire qui en sont le fruit. Se soumettre au régime de la production préfinancée, qu'on le veuille ou non, c'est incontestablement voir la création mise au carreau de la demande politique et évidemment pas la demande des habitants. Il me semble que cela pose un problème assez important d'ordre démocratique, mais aussi en tant que plasticien, puisqu'en se privant de l'imagination des artistes et des habitants, ça me semble très important aussi d'associer les habitants, on se prive de toute possibilité de changement. L'art participe à quelque chose que j'appelle la réduction de l'espace public et d'un climat, participe ainsi, en fait, malheureusement, à une réduction de l'espace public, puisqu'en fait, on insère des objets dans l'espace public comme ça, ex nihilo, qui sont conçus dans des ateliers et il y a peu d'espace pour les gens. Et participe à un climat de défiance envers les institutions. C'est ce que dit très bien Loïc Blondiot. Pour lui, la défiance croissante des citoyens à l'égard des autorités politiques dans la plupart des démocraties occidentales favorise l'abstention électorale, l'abaissement du seuil de tolérance aux discours d'autorité et il contribue à éroder fortement la légitimité des gouvernements. Ceux-ci sont contraints désormais de recourir à d'autres modalités de prise de décision afin d'éviter, de contourner ou de canaliser les conflits avec leur population. Ça me semble très important et ça va aussi rejoindre un petit peu, je vais le développer si j'ai encore quelques minutes, j'ai pas vu le temps passer, ça me semble important par rapport à ce qu'a dit Nicolas. Puisqu'en fait, on va voir aussi, j'ai cherché à savoir quels étaient les rapports entre l'artiste qui a conçu cette structure, cette installation, et les habitants. J'ai trouvé aucune information, sauf une. Et vous allez voir la façon dont, en fait, comme l'a très bien montré Nicolas, la projection en fait qu'on a sur les gens qui habitent le quartier de la Grand-Mare. C'est ainsi qu'en fait, quand on pose dans une interview, on demande à l'artiste, alors vous allez voir la question, et les lascars du coin, tu as eu l'occasion de les croiser, quelles ont été leurs attitudes? Alors bon, les lascars, ok, moi ça me fait un peu sauter en l'air, mais voilà. Et là l'artiste répond, alors pour les lascars, comme tu dis, l'approche était d'un autre ordre. L'un d'eux m'interpella un soir où j'ai déambulé, musique à fond dans le casque, le long du mutant. Il me demanda qui j'étais et ce que je faisais là. Alors que je m'exécutais, il me coupa la parole pour me signifier combien mon entreprise, donc c'est-à-dire le fait de créer une œuvre sur la Grand-Mare, était très mal engagée pour une bonne raison. Le commanditaire était l'État, donc grosse méfiance si ce n'est rejet. Surtout si un élu vient faire de beaux discours. Alors l'artiste répond, l'artiste réagit, instinctivement, excusez-moi. Je lui offris une cigarette et je lui dis que justement, cet espace public était une zone de protestation, de tribune libre, avec des porte-voix dans lesquelles il pourrait venir slammer. Pour moi, c'est un petit peu encore un cliché. Le morceau Gotham OX de Cannibal OX, excusez-moi, c'est donc un groupe de rap américain, s'échappait de mon casque posé autour de mon cou pendant notre conversation. Il a eu pour vertu de calmer mon interlocuteur et notre discussion s'orienta vers un accord sur l'utilité de Vost, donc c'est le titre de l'œuvre, comme catharsis. Donc on voit bien là aussi, l'artiste il est vu comme un médiateur. Et en fait, on a un discours qui vise à faire approuver une forme imaginée par les, entre guillemets par l'État, en tout cas via le fait de faire intervenir l'art contemporain au milieu du quartier. Ça c'est l'État qui l'a décidé, dans la logique des programmes de grands travaux, c'est-à-dire des travaux qui n'ont pas forcément fonctionné, et pour venir réparer l'espace. Et il ne s'agit pas en fait pour l'artiste d'aller, on voit bien que ce dialogue c'est pas un dialogue d'aller demander aux habitants quels sont les problèmes ici, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ensemble par exemple pour créer une œuvre d'art, en tout cas on a des budgets, admettons, on pourrait aussi prendre la chose comme ça, il y a des budgets pour la commande publique, essayons de faire quelque chose ensemble.
Mathieu, je sais pas si
c'est une approche que j'aimerais tenter dans mes recherches en tout cas. Résultat de l'œuvre. Vous avez ici le gradin dont les voies n'ont jamais été installées et voilà qui sont une, donc l'installation est dans l'espace public et l'usage principal en fait est de servir de banc, donc voilà.